Bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous présenter un recueil de poésie. C'est pas souvent que l'on peut présenter un recueil de poésie en hébreu, traduit de l'hébreu et en collection, en édition, bilingue. Il s'agit du grand poète Avot Yeshurun. Le recueil s'intitule « À présent, je n'ai pas » en hébreu « Ein li achshav » et je vais tout de suite essayer de vous expliquer, ou en tout cas vous donner mon interprétation de ce titre tant soit peu énigmatique. Mais auparavant, j'ai oublié évidemment les éditions de l'Éclat et la traductrice B. Formentelli, qui est la traductrice de ce poète Avot Yeshurun. Je reviendrai sur les autres ouvrages qui sont publiés de lui en français, traduits. Avot Yeshurun. Avot Yeshurun ne s'appelait pas Avot Yeshurun lorsqu'il est né. Il s'appelait Yechiel Perlmutter. Il est né en 1903, le jour de Yom Kippour, à Krasnistav, en Pologne du Sud. Il fait partie d'une famille qui compte 5 enfants. Et lui va partir pour la Palestine mandataire en 1925, donc à l'âge de 22 ans, en abandonnant délibérément, fermez les guillemets, sa famille, sa langue, le yiddish, et son nom, Yechiel Alter, deuxième prénom, Perlmutter, qu'il remplacera en 1948 par celui de Avot Yeshurun. Alors, maintes, multiples traductions, Avot évidemment les pères, Yeshurun qui peut faire allusion au peuple d'Israël, comme il l'est fait dans le livre de Deutéronome, mais aussi d'un verbe qui signifie regarder, les pères regarderont. Pendant une quinzaine d'années, à la suite de son alia, donc, Avot Yeshurun travaillera en kibbutz, comme ouvrier agricole, puis comme journaliste, puis comme maçon, ou bien les trois ensemble. Et il va faire l'expérience, justement, au cours de ses années de formation, de véritable archera, pour le coup. Il va faire l'expérience d'une profonde fraternité avec les Arabes avec lesquels il va travailler. Au sortir de la Shoah, il apprendra que toute sa famille a été exterminée. Et c'est à partir de là qu'il va développer, dirais-je, ce profond sentiment de culpabilité de les avoir non seulement tous abandonnés, mais de n'avoir quasiment pas correspondu avec eux. Sa mère lui envoyait beaucoup, beaucoup de lettres, et lui a répondu, je dirais, du bout des lèvres, enfin assez peu. Donc il n'a pas conservé ce lien très fort avec sa famille. Donc pour lui, c'est la faute originelle, sa faute originelle, sa faute première, sa première faille, shever, comme on dit en hébreu, la cassure, la rupture, la coupure. Et en 1948, l'abandon de la famille est élargi pour Avot Yeshurun, aux dimensions de la faute collective par l'expropriation des Arabes d'Israël. Bon, vous aurez tout de suite compris de quel côté se situe Avot Yeshurun. Il va être, par les premiers poèmes qu'il écrit à cette époque-là, il va être mis au banc de la société littéraire israélienne et n'acquérera une véritable notoriété que dans les années 70. Alors, on dit qu'il a été exclu de la scène littéraire par ses opinions politiques, mais pas seulement. Pas seulement, et peut-être encore davantage du fait qu'il a opté pour une écriture en hébreu, une écriture mêlée, une écriture de fusion. Alors, quelles sont les langues avec lesquelles il fusionne en hébreu? Eh bien, tout simplement, sa langue maternelle, le yiddish, et l'arabe, qu'il a appris, en tout cas, au contact des ouvriers arabes avec lesquels il a travaillé. Et cela, en 1948, c'était inconcevable. Encore une fois, peut-être même plus que la prise de position politique, inconcevable d'écrire dans un hébreu mêlé. En effet, 48, les années qui ont précédé, mais surtout les années qui ont suivi, ce sont les années où les slogans fusent. Je vous renvoie à Ron Appelfeld et Histoire d'une vie, où il raconte ça très bien. Les slogans fusent. On a ivri daber ivrit. Hein? Homme hébreu parle hébreu. Hein? Pas juif, pas yéhoudi, mais ivri. Hake lachon, hake shoresh. C'est-à-dire, tu vas faire de la langue ta racine, hein? tu vas la planter profondément. Et cela constituera ta racine. Ta langue est ta racine. Voilà, ce sera peut-être mieux comme traduction plus rapide. Donc, lorsqu'un poète arrive et se mêle de tout à coup présenter des poésies en trois langues, voire plus un mot d'anglais par-ci, par-là, ou d'autres langues, il est immédiatement mis au banc, évidemment. Il est tout de suite récrié. C'est en 1952... qu'il publie dans le journal Haaretz, donc ce premier poème qui va tellement faire de bruit, Pessar sur les niches, avec, alors je reprends le mot fusion en l'élargissant, en créant une polyphonie de langue. Dans le poème Pessar sur les niches, il parle avec peine de la disparition des paysans arabes issus du modèle du bédouin biblique. Disparition des paysans arabes du paysage israélien. Il parle également, pas seulement de la disparition des paysans arabes, mais il parle de la destruction totale des juifs de Pologne. Il parle de l'oubli du yiddish. Il parle de cette compassion et cette morale juive qu'il a apportée de sa Pologne natale et qui, à son avis, à son sens, font défaut. Alors, j'avais dit que je mentionnerais les autres ouvrages que je n'ai pas ici pour vous les montrer, mais vous allez noter tout de suite. Le premier ouvrage est apparu dans les années 80, je pense 86-88, aux éditions arlésiennes, dont le nom m'échappe, mais ça va revenir, et s'intitule « La faille syro-africaine ». Actes Sud, aux éditions Actes Sud, La faille syro-africaine, toujours déjà dans la traduction de B. Formentelli, qui est un recueil, alors en français uniquement, non seulement un choix conséquent de poèmes, mais également, à la fin, une très longue interview du poète qui est interviewé par sa propre fille, Hilit Yeshurut, un personnage marquant, qui est une journaliste littéraire et qui a pris la peine d'interviewer son papa, déjà âgé, et de lui poser des tas de questions comme « Pourquoi tu n'écris jamais des poèmes d'amour ?» et lui de répondre « Mais dans ma poésie, tout est amour. » Donc ce recueil est vraiment très très intéressant parce que le poète s'y expose à nu. Alors évidemment, vous allez me dire que dans la poésie également, mais la poésie parfois est plus hermétique, et particulièrement celle de Avot Yeshurun, qui n'est pas forcément accessible comme ça à première lecture. Il faut la lire à haute voix, de préférence aller voir le texte hébreu quand on peut. Et alors justement, deuxième publication, alors beaucoup plus récente, dans les années 2000 et quelques, aux éditions de l'Éclat cette fois, et en édition bilingue, 30 lettres de Avot Yeshurun. Que sont ces 30 lettres? Eh bien, il se trouve que dans les années 60, Avot Yeshurun ouvre un tiroir d'une commode et y trouve les lettres écrites par sa mère. Il reçoit un véritable choc émotionnel et il décide d'utiliser ces lettres en faisant de la poésie. Donc, ces poèmes sont à la fois des fragments des lettres maternelles, qui sont bien sûr traduits en hébreu, mais on aura ça et là des échos de la langue yiddish, auxquels il rajoute lui-même sa propre patte. Donc, c'est le deuxième recueil. Et enfin, celui donc que je vous présente aujourd'hui, encore une fois, Ein Li Achshav, à présent je n'ai pas, qui est également aux éditions de l'Éclat, toujours traduit par B. Formentelli, et qui fait partie des tout derniers poèmes écrits par Avot Yeshurun. Je vous donne lecture du poème intitulé « À présent je n'ai pas ». Enli Arshav. Dans la rue où j'habite, je ne pourrais changer de chemise, je ne pourrais ôter le pantalon, renforcer l'élastique du caleçon. À présent, je n'ai pas, n'ai que la poésie, pas le maître, ni le vers, ni les choses, pas les choses qui sont dans la poésie, ni la poésie qui est dans les choses. 4 novembre 1990. Tout de même que vous écoutiez l'hébreu. Berchov sherani gar lo uchal lechalif kutonet lo uchal leorid mechnasayim lechazek et hagumi batachtonim en li achshav rak hashira lo hamishkal lo acharuz velo hadvarim lo hadvarim shebashira velo hashira shebadvarim. Une définition extrêmement concentrée, extrêmement elliptique de la poésie, hein, puisque ce je n'ai que la poésie, hein, ce ne sont pas les choses qui sont dans la poésie, ni la poésie qui est dans les choses. Donc que reste-t-il ? Une substantifique moelle, difficilement accessible, ou en tout cas peu explicable. J'aimerais également vous livrer lecture du poème intitulé « Maison Krasnistav ». Donc Krasnistav, c'est donc ce shtetl, hein, cette petite ville de Pologne où il est né. Il habite, lui, à Tel Aviv, il habitera la rue Berdichevski, qui est une rue du vieux Tel Aviv, nom d'un écrivain. La rue est en chantier. Hein, la rue, la maison à Tel Aviv est sans cesse allée se détruisant. Et par analogie, le poète va écrire que la maison, sa maison, celle de sa vie, celle de son œuvre, hein, la maison comme métaphore, est toujours ruine. D'où ce dépouillement total du poète que nous venons d'entendre précédemment. À présent, je n'ai que la poésie. Donc de la poésie, encore une fois, il ne reste plus que l'âme. Et dans cette âme poétique, la maison Krasnistav. À Tel Aviv, j'ai aimé des maisons jusqu'à ce qu'elles soient détruites et à nouveau construites. J'ai pleuré leur destruction, mais l'ancienne, je l'ai oublié. Si je t'ai oublié, maison Krasnistav. Betel Aviv, Afti Batim, Achenehras, Venivnu Mechadash, Itztaarti Shenehras, Ayashan Shacharti, Lou Shacharti, Krasnistav, Bait. Qui évoque évidemment directement « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais. » Donc, une poésie, comme vous le sentez bien, extrêmement, encore une fois, elliptique, hein, extrêmement de l'ordre du symbolique. Et la couverture du livre est particulièrement, je vais la remontrer à la caméra encore une fois, particulièrement émouvante parce qu'il s'agit des tout derniers vers écrits à la main par Avot Yeshurun. Hein, tout dernier vers. L'écriture d'ailleurs est tellement condensée, est tellement elliptique que Avot Yeshurun n'écrit pas certaines lettres finales. Hein, lorsqu'il écrit Lama, Lama en hébreu c'est trois lettres, Lamed Mem Hei, eh bien il omet le Hei. De la même façon, il va utiliser des formes condensées, abrégées de l'hébreu biblique. En guise de fermeture, de clôture, voici un poème qui date du 18 septembre 1991, donc peu de temps avant sa disparition, intitulé « Ouvre la Ne'ila ». C'est presque un oxymore, c'est-à-dire deux termes opposés l'un à l'autre, puisque Ne'ila, c'est la clôture, et pas n'importe laquelle, la clôture de l'office de Kippour. Rappelez-vous que Avot Yeshurun est né le jour de Kippour. « Lève-toi, viens au lieu d'où je te montrerai que tu es sorti, au lieu même. Ouvre-moi, ouvre à ma mère l'ultime porte, et je serai né. Et je serai né au futur. Hein, » c'est-à-dire que, terrible constat de vie, hein, lorsqu'il va disparaître, Avot Yeshurun considère qu'il n'est pas encore né. Avot Yeshurun, à présent je n'ai pas, édition de l'Éclat 2021, dans une traduction de Bi Formentelli.